RFI.
Depuis une semaine, l'atelier des médias est à Tunis, en Tunisie, à l'occasion de la première formation des blogueurs de notre plateforme Arablog. Ils sont 20, originaires de près de 10 pays du monde arabe. Nous vous raconterons cette formation dans les jours à venir. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement qui s'était tenu à Beyrouth il y a quelques semaines. Il s'agit de 4M Beyrouth, organisé par CFI, l'agence de coopération médias, qui nous a d'ailleurs beaucoup aidé pour le projet Arablog. Elle soutient également CFI des dizaines de projets médias à travers le monde arabe. Nous vous proposons aujourd'hui de découvrir 5 jeunes initiatives journalistiques libanaises, palestiniennes, syriennes et panarabes.
L'atelier des médias, la web émission participative. Ziad Malouf, Simon De Creuse.
Et vous,
depuis 4 ans, CFI, l'agence de coopération média française, soutient et facilite l'innovation journalistique dans le monde arabe via son projet 4M. 4M pour Médias, Mutation, Méditerranée et Montpellier, ville qui a accueilli une première rencontre en 2011. 4M a donné naissance au projet 4M Mashrek, qui depuis un an propose un accompagnement personnalisé, une accélération, comme on dit, à 10 startups médias du Liban, de Syrie, de Palestine et d'Irak. Parallèlement, le fonds Eptikar de l'Union Européenne, co-géré par CFI et la Fondation Samir Kassir notamment, fournit un appui financier à 11 projets médias présents dans le monde arabe. Nous sommes aujourd'hui avec 5 représentants de ces projets, soutenus soit par 4M Mashrek, soit par Eptikar, soit par les deux. Mashallah News, Beyrouth Report, Frame, Visualizing X et Syria Untold.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
Bonjour Micheline Tobia.
Bonjour.
Toi, tu représentes un projet, un média qui s'appelle Mashallah, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est?
Mashallah veut dire ce que Dieu a voulu. C'est une expression optimiste qui est utilisée dans toute la région et on a trouvé que c'était une bonne chose de l'utiliser comme titre du site. Et Mashallah, c'est un site sur le monde arabe, la Turquie et l'Iran. Et on couvre des sujets qui ne sont pas assez couverts dans les médias mainstream, comme l'art, la culture, la vie de tous les jours, les changements urbains, les personnes qui font nos villes ce qu'elles sont.
Vous expliquez sur le site internet que c'est un site d'information désorienté. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
On a voulu jouer un peu avec ce mot, que c'est différent de ce qu'on pourrait lire à propos de la région. C'est sur l'Orient. Mais on voulait aussi désorienter un peu, que le lecteur redécouvre l'Orient sous un autre angle.
Vous avez une ambition régionale, vous dites que vous intéressez à tous les pays où on utilise justement l'expression Mashallah, c'est ça? C'est-à-dire du Maroc à l'Iran en gros ou...
Pour l'instant on est dans 25 villes et on accepte toutes les contributions à propos des villes de tout le monde arabe, de la Turquie et de l'Iran, où on dit Mashallah. Donc.
Comment vous fonctionnez? Comment vous arrivez à faire un média présent dans autant d'endroits?
Nous, ça fait 4 ans qu'on est à la base du volontariat. Donc, on fait des appels à projets, des appels à contributions. Et on accepte toutes les contributions qui couvrent les villes qui ont un sujet avec un angle particulier et différent de ce qu'on a déjà pu lire. Et voilà, c'est notre seule demande.
Vous vous placez, quand vous expliquez votre projet, en opposition un petit peu au discours ambiant. Vous dites, on en a ras-le-bol de la propagande culturelle, de Laurence d'Arabie, de CNN, de CNN Turc aussi, qui est donc la version turque de CNN, des correspondants étrangers endoctrinés. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça?
Le souci, c'est que pour les grandes chaînes de médias, ils envoient leurs correspondants dans nos villes sans vraiment connaître les villes. Et donc, ils font de grands reportages avec toujours cette simplification de la ville, avec des généralisations, des stéréotypes qu'on trouve qu'il est temps d'aller au-delà de ça.
Vous dites endoctriner, ça va plus loin. Endoctriner, ça veut dire qu'ils ont épousé des doctrines ou qu'ils ont été très fortement influencés par certaines personnes.
Voilà, ou bien qu'ils viennent avec leurs stéréotypes et font leur reportage par rapport à ces stéréotypes-là, sans essayer d'aller plus loin que ça.
Et Laurence d'Arabie, c'est quoi? C'est contre une forme d'orientalisme, comme on dit, c'est-à-dire une vision un peu idéaliste de l'Orient?
Voilà, parce que on veut présenter l'Orient sous un autre angle et pas seulement sous ce qu'on sait à travers Laurence d'Arabie ou bien quelques autres livres ou films que les personnes connaissent seulement à propos de la région. Donc aller plus loin que ça.
Vous avez évolué comment depuis 2010? C'est un projet qui a donc 4 ans, qui est sur la base du volontariat, qui est en plusieurs langues aussi.
C'était supposé être un petit blog à propos de 2-3 villes. On a grandi sans trop nous y attendre. On a tenté plusieurs autres projets. On a publié un livre. On a fait des best of magazines. On a fait une émission radio même juste pour nous amuser. Et on a eu la chance de recevoir un fonds d'Eptikar donné par Canal France International qui aide les médias en ligne dans la région. Et ça va nous permettre d'évoluer et de lancer un nouveau site qui sera beaucoup plus interactif, dans lequel nous allons archiver nos articles, nos 500 articles que nous avons publiés autour d'une carte, et le rendre beaucoup plus visuel et attractif aux lecteurs.
Justement, ça c'est un peu ce qui réunit tous les projets dont on parle aujourd'hui. Vous avez bénéficié donc de ce fonds Eptikar, c'est de l'argent de l'Union Européenne à l'origine, qui a été piloté par CFI et d'autres organisations. Vous avez aussi bénéficié du projet 4M Machrek, c'est ça ?
Voilà, c'était un projet sur 6 mois, avec 5 sessions d'une semaine chacune, à Beyrouth, pour aider des médias dans la région du Levant. Et donc, ils nous ont formés, aidés, vus. Leur but, c'était de voir ce qui nous manquait, ce dont on avait besoin, quel genre de support. Et ça nous a permis de développer notre projet, d'avoir un angle en particulier, de nous lancer, de commencer des collaborations avec d'autres groupes qui ont pris part à ce projet aussi.
C'est une forme de professionnalisation pour un projet comme le vôtre, de participer à ces différents événements, de bénéficier de bourses, etc.
Exact, c'est notre étape de professionnalisation et ça va nous permettre d'avoir une organisation plus organisée et pour nous aider à aller de l'avant et de planifier, de surtout planifier, de savoir ce que l'on veut faire dans les années à venir.
Comment il est perçu, comment il est reçu ce média qui veut justement s'intéresser à des faits culturels, s'intéresser à la culture urbaine, etc. Comment ça fonctionne ?
Les gens sont très curieux. Ça les étonne, d'abord le nom les surprend. Donc on
y compris en français, ça sonne bien, enfin ça a une belle sonorité, machallah.
Voilà, et c'est fait pour que les gens s'en rappellent. C'est une expression qui est positive et donc on veut que les gens s'en rappellent. Et en général, les gens sont curieux d'une bonne manière, même les gens qui, chaque fois qu'ils lisent des articles à propos de Beyrouth ou bien de Jadda, ils découvrent de nouvelles histoires. Et donc on a des retours assez positifs et ça nous fait plaisir.
Qu'est-ce que vous souhaitez apporter à cette région où finalement on se dit, vu l'actualité, vu toutes les choses graves qui se passent tous les jours dans presque tous les pays de cette région, avoir un point de vue décalé comme ça, ne pas s'intéresser à la politique, ne pas s'intéresser nécessairement au conflit, ça peut paraître un petit peu naïf ou ça peut paraître un petit peu, je ne sais pas quel mot on peut utiliser, mais désintéressé du monde.
Enfin, on couvre des artistes qui sont actifs politiquement parlant, mais c'est notre façon de parler de l'art plutôt que de parler d'un projet politique. Je vais te parler de 2 exemples. Tout d'abord avec l'Arabie. On a écrit des articles à propos de comédiens sur YouTube qui font des one-man shows.
Les comédiens, c'est plutôt ce qu'on appelle des comiques en France, c'est-à-dire les comédiens, c'est comme ça que les appellent les Anglais, c'est-à-dire des personnes qui font de l'humour, quoi.
Voilà, exactement. Et qui font des shows sur YouTube satiriques, qui parlent des faits de société, de ce qui se passe dans leur ville, qui se moquent des autorités. Donc on en a parlé parce que c'est fait en arabe, donc leurs auditeurs et leurs fans sont des Saoudiens, et c'est fait aussi dans le dialecte saoudien. Et on trouve que même les gens dans les pays alentours n'en ont jamais entendu parler.
Et ça montre un visage de l'Arabie Saoudite qu'on n'imagine pas nécessairement de loin, peut-être même pas dans d'autres pays du monde arabe.
Voilà, exactement. Il y a même des émissions avec des femmes qui font leur propre show. C'est une chose que même moi, je n'en avais jamais entendu parler avant.
Et ça montre une évolution peut-être de la société saoudienne qu'on ne voit pas nécessairement arriver si on ne couvre que la politique.
Exact. Mon autre exemple, c'était pour la Syrie. On avait parlé d'un show aussi satirique de marionnettes qui parlait de Bachar al-Assad et de ses aides. Donc c'était notre façon aussi de couvrir la révolution syrienne, mais du côté de la culture et du satirique.
Bonjour Habib Bata.
Bonjour.
Toi, tu représentes un blog qui s'appelle Beirut Report, c'est ça ?
Yes, beirutreport.com.
Oui, c'est ça, beirutreport.com. C'est un site qui essaye de mettre en valeur le journalisme d'investigation au Liban. Nous menons des enquêtes dans des domaines où il y a un besoin gigantesque de comprendre ce qui ne va pas et ce qui manque. Tout cela parce qu'au Liban, nous avons des problèmes d'électricité, des problèmes d'eau, des sites archéologiques détruits, nous manquons d'espace public, nos plages se font raser pour reconstruire des immeubles. Donc oui, il y a un grand nombre de thématiques à explorer et sur lesquelles enquêter. Malheureusement, nos médias disposent de peu de temps et de peu de ressources pour mener à bien ce genre d'investigation. Sur BeyrouthReport.com, nous nous concentrons plus sur les problèmes auxquels font face les citoyens au quotidien que sur l'actualité de nos politiciens, c'est-à-dire savoir où ils ont pris leur café le matin. Malheureusement, c'est cela qui accapare la plupart des médias.
Ça fait 15 ans que tu travailles comme journaliste, c'est ça? Et tu as lancé ce site, donc, qui était ton blog, donc un site à côté de ton activité professionnelle, en 2008, donc ça fait 6 ans. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as fait, pourquoi tu as fait ça, comment tu as évolué vers ça?
So the site began as kind of to complement my investigative journalism, as you mentioned.
Initialement, le site était un complément à mon travail de journaliste. J'écrivais des articles d'investigation pour des journaux et des magazines. Et je me suis dit, pourquoi ne pas avoir une sorte de bloc-notes de mes enquêtes, accessible à tous, sous forme de blog? C'est comme ça que le site a commencé. À l'époque, il y avait d'ailleurs beaucoup d'attentats à la bombe et d'assassinats politiques au Liban. J'étais vraiment interloqué par le fait qu'il n'y avait jamais de véritables enquêtes. J'ai donc commencé à me rendre sur les scènes de crime pour remarquer qu'on s'en occupait plutôt mal. Les lieux étaient mal clôturés, il y avait des parties de voitures dispersées un peu partout, la police ne faisait pas grand-chose. En général, il n'y a que certains sujets qui arrivent à devenir de longs articles de magazine. On est souvent obligé d'écrire un petit peu et pour plusieurs médias. Donc j'ai commencé à m'intéresser aux scènes de crime, aux coupures d'électricité, aux sites archéologiques, pour me rendre compte qu'il y avait un nombre infini de domaines où la transparence est inexistante en ce qui concerne les décisions prises par le gouvernement. Sans transparence, les gens ont tendance à laisser faire et laisser s'installer une forme de déresponsabilisation. Au Liban, nos leaders échappent tous les jours à la justice, alors qu'ils ont commis des crimes, parce que les gens n'ont pas les informations qui permettent d'identifier les responsables de ces actes. La couverture médiatique est beaucoup trop généraliste pour fournir ces informations. Donc ça a commencé comme ça.
Ça paraît étrange comme thématique. Tu commences par enquêter sur des assassinats, puis tu t'intéresses donc à l'archéologie, puis à l'électricité, puis à l'environnement. Qu'est-ce que c'est le rapport entre ces sujets-là ?
Dans tous ces exemples, il existe une menace commune, c'est le manque de transparence. Pour ce qui est des enquêtes, aucune information n'est révélée à la presse en ce qui concerne l'avancée de l'affaire. On ne sait pas s'il y a des suspects, s'il y a des portraits robots, s'il y a les enregistrements d'une caméra de surveillance. Rien de tout cela n'est rendu public. L'idée est la même pour ce qui est de l'archéologie. Des fouilles ont constamment lieu sur les sites, des projets immobiliers de plusieurs millions de dollars foisonnent dans la ville, et le public n'est jamais informé de ce qui a été découvert avant que les immeubles soient construits. Est-ce important d'avoir un nouvel hôtel 5 étoiles alors qu'il y en a déjà 10 à Beyrouth et qu'ils sont vides? N'est-ce pas plus important d'avoir un monument unique en ce genre, comme l'hippodrome romain de Beyrouth qui a été découvert récemment? J'ai un autre exemple qui peut intéresser vos auditeurs français. Le fameux architecte français Jean Nouvel allait construire un gratte-ciel dans le centre-ville, à l'endroit où a été découverte la porte romaine antique de Beyrouth. Il s'agit d'une des plus importantes découvertes de la ville, parce qu'elle a permis de savoir la localisation exacte de la cité antique de Beyrouth, qui était inconnue pour les archéologues jusqu'à présent. Ce site comprend aussi l'emplacement d'une des églises les plus anciennes de Beyrouth, ainsi que plusieurs voies romaines. La tour de Jean Nouvel était censée être dressée à cet endroit. J'ai donc pris beaucoup de photos du site que j'ai publiées sur mon blog, et l'article a fait le buzz. Deux jours après, le ministre de la Culture est intervenu pour annuler ce projet de quelque 150 millions de dollars. Il a un autre projet de 75 millions de dollars cette fois sur lequel mon blog a aussi fait pression. Mais ce n'est pas uniquement mon travail qui a été décisif. Je travaille main dans la main avec des militants et des citoyens afin qu'ils fassent partie du reportage, de l'investigation. Au moment où il faut trouver l'information, les activistes effectuent des recherches auxquelles les journalistes n'ont pas toujours accès. Je peux donc utiliser ces recherches après les avoir bien vérifiées, confirmées et avoir recoupé les sources, bien entendu. C'est souvent un moyen très utile de recueillir des informations au Liban, puisqu'il s'y passe énormément de choses. Nous avons donc besoin de toute l'aide possible de la part des contributeurs.
Donc en fait, tu as commencé comme journaliste, tu t'es dit je vais ouvrir une sorte de carnet, un blog note à côté pour raconter ce que je peux pas raconter dans mes articles. Et là, on comprend que ça a pris une importance particulière, c'est devenu un site qui explique, dénonce les dysfonctionnements et de Beyrouth d'ailleurs, et du reste du pays parfois. Qu'est-ce que c'est les enseignements pour toi en tant que journaliste de cette expérience ?
Je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'ai créé ce site correspond à une tendance que j'ai observée en tant que journaliste traditionnel. Nous sommes constamment face à une impasse lorsque nous enquêtons sur un sujet. Traditionnellement, nous acceptons le fait qu'il n'y ait pas de budget, pas de commentaires, donc pas d'article à écrire. Moi, je pense que le cœur de l'article est précisément là, quand quelqu'un refuse de commenter ou quand un document n'est pas rendu public. C'est à partir de cette frustration de rapporter pendant des années des choses qui n'étaient pas accessibles et de voir les gens se résigner en se disant « tant pis, passons », que j'ai voulu me concentrer sur ces documents manquants, sur ces budgets non publiés, sur ces offres de construction opaques. Lorsque les gens lisent un article, souvent assez long quand il s'agit d'une enquête compliquée, ils le finissent rarement et font rarement attention à ces 3, 4, 5 points clés sur lesquels ils peuvent agir. Et souvent, ils ne savent pas qu'ils peuvent agir. Ce genre de format ne permet pas aux gens de s'engager pour avoir un impact sur ce qu'ils ont lu. Ils le lisent, puis continuent à vivre normalement. C'est pour ça que je veux allier les compétences journalistiques traditionnelles, qui sont nécessaires, puisque le blogging est problématique dans la mesure où il n'est pas ancré dans les formats du reportage traditionnel, tout ce qui est travail de terrain, recherche, et qu'il est assez impulsif dans la manière d'écrire, dans la manière de jeter les mots sur une feuille. Donc je voulais allier les compétences journalistiques traditionnelles à une façon de partager des informations dans une optique web 2.0 interactive qui servent réellement à quelque chose. Il y a aussi le fait que parfois, on n'arrive pas à toucher le fond du problème, mais il faut toujours l'expliquer au lecteur. Si je ne connais pas la réponse à quelque chose, je formule la question. J'expose ce que j'ai trouvé jusqu'à présent, les photos que j'ai prises, ce qu'on m'a raconté. J'affirme qu'il pourrait y avoir des choses qui m'échappent dans l'histoire et tout le monde est libre de commenter ou d'ajouter des informations. En ce sens, c'est open source, participatif, pour que les gens puissent rajouter des choses à l'histoire. Et d'ailleurs, je change souvent l'histoire à la lumière de certains retours. C'est important pour moi de poser des questions aux lecteurs sur Twitter, sur Facebook et sur les blogs. Nombre d'entre eux ont beaucoup d'expérience et apportent leur part d'expertise. Je pense que c'est un nouveau phénomène dans le journalisme. Une histoire n'a pas une seule version, mais plusieurs versions, et peut toujours être mise à jour ou complétée par d'autres éléments d'enquête.
Alors toi, comme Mashallah, tu as bénéficié du projet 4M Mashrek, donc qui accompagne pendant plusieurs mois ton Beirut Report, ton blog. Qu'est-ce que ça t'a apporté ? Qu'est-ce que c'est les enseignements que tu pourrais partager avec le public, s'il y en a d'ailleurs ?
Oui, participer au 4M a été une expérience très utile. Ça nous a surtout appris où trouver les fonds dédiés à ce genre d'entreprise médiatique indépendante au Moyen-Orient, des fonds que beaucoup ignorent. Ça nous a également formés au côté business du média. Car en tant que journaliste, c'est typiquement le genre de choses que j'aimerais ne pas avoir à gérer. Mais de nos jours, il faut savoir s'en occuper si l'on veut être indépendant. Plus important encore, c'est d'avoir découvert tous ces autres projets et d'envisager des collaborations avec au moins un d'entre eux. Pour ce qui est du reste, c'est important de se réunir et de se soutenir les uns les autres dans ce domaine.
Et qu'est-ce que c'est le projet à long terme pour ce site ?
À long terme, l'idée est essentiellement de devenir indépendant et durable, d'agrandir l'équipe, d'avoir différents desks dédiés chacun, soit à l'archéologie, soit à l'environnement, soit à l'électricité. Tout cela afin d'apporter aux citoyens l'information dont ils ont besoin pour comprendre d'où viennent les problèmes du pays et comment ils peuvent agir pour changer. C'est un projet à long terme dans lequel j'imagine déjà des centaines d'enquêtes. La difficulté est de trouver les ressources et les personnes qui me permettent d'enquêter.
Et votre connexion Internet fonctionne ?
L'atelier des médias.
Courte pause dans l'atelier, nous nous retrouvons dans quelques instants.
Nous nous ferons un plaisir de vous tenir vous informés dès que notre connexion Internet sera rétablie.
Atelier des médias, merci de nous retrouver. Nous sommes cette semaine à Beyrouth, au Liban, pour vous faire découvrir 5 jeunes initiatives médias du monde arabe. Mashallah News, Beyrouth Report, Frame, Visualizing X et Syria Untold.
L'atelier des médias. La web émission participative.
RFI.
Ziad Malouf, Simon de Creuse.
Et vous, 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 vous.
Bonjour Ali Sayed Ali.
Bonjour.
Toi, tu représentes un projet qui s'appelle Frame, c'est ça ? Et qui s'appelle aussi le Beyrouth Photo Marathon.
Oui,
le Beyrouth Photo Marathon est une activité organisée par notre ONG. Elle est nommée Frame. Nous sommes basés à Beyrouth et nous nous sommes lancés il y a presque 2 ans déjà. Nous sommes parvenus à organiser 2 marathons de photos qui ont rencontré beaucoup de succès avec de grandes expositions photos.
Il faut peut-être m'expliquer donc ce qu'est Frame, qu'est-ce que c'est l'objectif, qu'est-ce que c'est le parcours de ce projet et ce que vous entendez par Beyrouth Photo Marathon.
Oui, alors Frame a été fondé par un groupe de 5 amis. Nous aimons Beyrouth et nous nous sommes rendus compte que la géographie urbaine de notre ville est à l'image de ses divisions politiques et socio-économiques. Je pense que notre collègue de Beyrouth Report, Habib, a évoqué quelques-unes de ces divisions. On s'est tous réunis et on s'est demandé comment faire en sorte que les citadins s'impliquent dans leur ville, leur faire voir, observer les divisions, les dysfonctionnements, mais aussi les documenter, les archiver. On a donc fait un brainstorming et mon collègue Maroun Sfer a eu l'idée d'importer le modèle du photomarathon de Beyrouth. Ça a été comme une révélation et nous étions tous d'accord sur le fait qu'il y avait là une manière d'impliquer les gens dans leur ville.
Et donc comment ça fonctionne un photomarathon ? Il y en a eu un le 27 septembre dernier. À quoi ça sert ? Qu'est-ce que c'est l'idée derrière ? Qu'est-ce que ça vous apporte ? Qu'est-ce qui en ressort ?
Le 27 septembre 2014, nous avons organisé le 2e photomarathon de Beyrouth. Nous avons pu mobiliser 95 photographes, la plupart grâce aux réseaux sociaux et aux bouches à oreille. Ils nous ont rejoints le 27 à 10h du matin. La séance photo a duré 12 heures, pendant lesquelles nous avons distribué aux participants 12 thématiques. Et ce que nous avons découvert est que le photomarathon de Beyrouth est en fait un outil qui permet de saisir la vision des gens sur les thèmes qu'on leur a demandé de documenter.
Quel genre de thème ?
Ce qui est très intéressant, et je me permets de parler des thèmes de l'édition 2013, c'est qu'il y avait le thème de la propagande. Parmi les constantes que nous avons remarquées dans les photos, il y avait des clichés de journaux et de marchands de journaux. Nous avons trouvé ça très intéressant. Malgré le fait que Beyrouth soit inondé de propagande politique, pour une raison que nous ignorons, les gens ne la photographiaient pas. Et cela nous amène à nous demander, pourquoi personne ne la voit ? Sommes-nous en train de l'ignorer ? Il y a aussi d'autres thématiques, comme par exemple celle du chaos. Habib de Beyrouth Report a parlé du problème des coupures d'électricité à Beyrouth. Lorsque nous donnons aux participants le thème du chaos, nous recevons beaucoup de photos représentant le réseau électrique de la ville, avec tous ces fils qui pendent de manière chaotique. Donc quelque part, nous ne nous limitons pas à documenter la ville, les gens et les lieux seulement, mais aussi les différentes perceptions.
Et qu'est-ce que c'est l'objectif de ce projet ? Qu'est-ce qui en ressort pour vous ? Quel genre d'informations en ressort ?
L'objectif du photomarathon est de pouvoir compiler toutes les photos sur notre site, les archiver, les géolocaliser dans un des 10 secteurs de Beyrouth et les ranger par thème pour que les points communs ressortent. Mais notre événement est surtout un événement de terrain, plutôt qu'un événement virtuel. Nous avons réuni près d'une centaine de photographes et nous les avons amenés dans certains quartiers de la ville que les gens ne prennent pas en photo d'habitude. Pour nous, cette expérience est essentielle dans une ville divisée, où règne une forte tension, où la situation sécuritaire est difficile. Pouvoir amener les gens sur le terrain, les faire interagir avec les communautés, leur faire visiter des quartiers qui leur sont inconnus. Eh bien pour nous, c'est très important en termes de cohésion sociale et pour le futur de la ville.
Et qu'est-ce que vous souhaitez que ces photos apportent aux gens ? Elles sont disponibles sur votre site internet, sur les sites internet du Beyrouth Photo Marathon. Comment vous souhaitez que les gens les utilisent ? Qu'est-ce que vous souhaitez que ça apporte ?
3 days ago, we unveiled the 2014 photography on our website.
Il y a 3 jours, nous avons mis en ligne toutes les photos de l'édition 2014 du marathon. Il y en a 1062, divisées en 12 thématiques. Sur le site, on peut filtrer les photos si l'on veut se focaliser sur certains sujets. Mais surtout, nous avons organisé un concours où le jury accorde 2 premiers prix sous forme de publication. En parallèle, les internautes peuvent aussi voter sur le site. La raison pour laquelle nous avons mis en place un système de vote en ligne est de permettre aux gens de voir réellement les photos. Il est important pour nous que les gens regardent le vrai Beyrouth, droit dans les yeux. Les médias grand public se concentrent beaucoup trop sur le conflit et les tensions à Beyrouth, sur son passé de guerre. Si ce n'est pas sur ça, c'est alors sur la nightlife et la fête qu'ils se focalisent. Nous voulions apporter quelque chose de nouveau. Nous voulions documenter la vraie vie de la ville. Les gens peuvent donc aller sur notre site, voter pour leurs photos préférées, et le 16 novembre, nous annoncerons les gagnants du photomarathon de Beyrouth.
Le Beyrouth photomarathon a été lancé par Frame. Qu'est-ce que c'est Frame? Qu'est-ce que c'est l'idée derrière? D'où vous venez, vous, pour avoir rejoint cette organisation ou l'avoir lancée?
Frame est une organisation à but non lucratif créée par 5 personnes issues de différents milieux et de différents domaines. Moi, j'ai mené plusieurs recherches dans le domaine social et politique au Liban. D'autres collègues de chez Frame sont par exemple développeurs web, professionnels des médias, photographes. Mon aire d'expertise à moi, en tant que chercheur, correspond à une méthode de recherche dite qualitative. J'ai mené des études avec des groupes de discussion à travers le pays sur différentes thématiques, de la réforme électorale à la sécurité. J'ai également mené des recherches sur l'effet de certaines politiques au Liban. Nous nous sommes rendus compte que la population en général ne s'intéresse pas à ce genre de choses, ni aux documents politiques, ni aux rapports qualitatifs de nos recherches, mais plutôt aux problèmes que nous vivons au quotidien. Comment alors inciter les gens à s'impliquer de façon créative? C'est ce constat qui a fait naître l'idée générale. Aujourd'hui, nous avons atteint un point où nous pensons pouvoir la développer davantage. C'est une manière de construire des ponts entre différentes cultures, différentes villes, différents pays.
Nous sommes toujours à Beyrouth avec les porteurs des projets 4M Machrek, 4M Beyrouth, 4M aussi Eptikar, en tout cas Fonds Eptikar. Je suis maintenant avec Jouman Al-Jabri, bonjour.
Bonjour.
Toi, tu travailles pour un projet qui s'appelle Visualizing X et Visualizing Palestine, c'est ça?
La compagnie s'appelle Visualizing Impact et notre projet primaire, c'est Visualizing Palestine.
Alors, qu'est-ce que c'est Visualizing Palestine?
Alors, visualizing, c'est visualiser, utiliser des moyens différents comme infographiques, animations, en utilisant des data de rapports d'organisations comme les Nations Unies, Amnesty International, Human Rights Watch et autres.
Donc des data, ce sont des données, des informations. Et donc l'idée, c'est de transformer des données sur Palestine et Israël en quelque chose de peut-être plus compréhensible, c'est ça?
Oui, la manière dont on travaille, on est un groupe de chercheurs, de designers, de personnes qui font du storytelling. Alors,
On
raconte des histoires, mais qui ajoutent cet élément émotionnel aux données qui sont d'habitude très, très secs. Et c'est pour ça, en partie, que la média ne rapporte pas ces données. Alors, je vais donner un exemple. Il pleut maintenant à Beyrouth.
On entend un petit peu la pluie, ouais.
Ce qu'on sait, c'est qu'un rapport nous dit qu'un Palestinien, en moyenne, prend 70 litres d'eau par jour. Pourtant, la Palestine, à Ramallah, il y a plus de précipitations d'eau que Londres. Alors ça, c'est un fait qui n'est pas rapporté dans ces rapports.
Ça veut dire quoi, 70 litres d'eau? Ça veut dire que c'est peu? C'est quoi? Il faut expliquer peut-être.
En moyenne internationale, il faut qu'une personne ait accès à 100 litres d'eau par jour. Une personne à Londres a accès à 150 litres par jour. Alors pour que Ramallah ait plus de précipitations et que la personne palestinienne ait 70 litres, mais une personne israélienne dans les colonies, en Cisjordanie, peut accéder à plus que, ou en moyenne, 300 litres d'eau par jour dans la même région. Alors ça, c'est choquant comme histoire. Et puis, dans nos visuels, on ajoute...
Justement, ce que j'allais te demander, c'est-à-dire quand on l'explique, c'est toujours un peu compliqué, il faut donner beaucoup de chiffres. Alors à la radio, c'est encore pire qu'à l'écrit, peut-être, parce qu'on doit donner plein de chiffres. Comment est-ce que vous transmettez cette information avec du design, avec du dessin?
Alors, en première partie, on fait cette comparaison. Une personne de Londres, une personne de Ramallah palestinienne et une personne de Ramallah israélienne. Et au début, on dit Ramallah a plus de précipitations que Londres. Alors ça, c'est une histoire que tout le monde peut en parler sans savoir les chiffres. Et puis après, on parle des raisons pour lesquelles cette personne palestinienne prend beaucoup moins qu'une personne israélienne sur la même terre. Mais je vais peut-être donner un autre exemple qui est un peu plus simple. Alors, il y a entre 2000 et 2005, il y a eu 67 femmes qui ont accouché sur une barrière.
Un checkpoint, non.
Et des 67 femmes, il y a eu environ 36 bébés qui sont morts. Alors, l'infographique a montré trois enfants. Un enfant américain, alors qui s'appelle My name is
Jason.
Jason et I was born. Je suis née dans l'hôpital X en Amérique. Une autre personne française dit mon nom est. Tali.
C'est Camille et je suis née à l'hôpital Saint-Vincent de Paul.
Oui, et le Palestinien dit mon nom est Rami par exemple et je suis née sur un checkpoint. Alors ça, c'est l'histoire qui est choquante. Et dessous de ça, on explique pourquoi ça s'est passé et l'idée du checkpoint.
Comment s'est né ce projet ? Toi, tu es originaire d'où ? Tu as un accent américain, c'est ça ? Ou tu as vécu aux États-Unis ?
Je suis saoudienne syrienne, palestinienne de cœur, libanaise de... Enfin, on est un groupe d'internationaux. Les deux personnes qui ont fondé ce projet sont Ramzi Jaber, qui est palestinien, et moi-même, qui ne l'est pas. Les autres personnes sont américaines, libanaises, de la Jordanie et d'autres nationalités.
Et comment vous les diffusez alors, ces réalisations ? Donc, sur votre site, on peut voir toutes sortes d'images expliquant des faits. Donc, tu en as mentionné deux. Il y a aussi, par exemple, le nombre d'arbres qui ont été arrachés en comparaison au nombre d'arbres qu'on peut trouver à Central Park à New York, etc. Comment elles se diffusent ? Comment elles se partagent ? Qu'est-ce que vous souhaitez qu'elles deviennent, ces différentes images ?
Tout d'abord, on les met sur nos réseaux sociaux, mais aussi, de plus en plus, on a des partenariats avec la média. Par exemple, notre travail a été republié ou publié à Huffington Post, Guardian, Al Jazeera et d'autres médias. Mais aussi, on travaille sur des projets où on a des partenaires qui travaillent sur un sujet précis. Par exemple, maintenant, on travaille sur l'économie palestinienne sous l'occupation. Pour ça, on va développer des infographies qui vont être utilisées dans le Congrès par des personnes palestiniennes qui présentent le cas palestinien, mais d'une approche économique. Et ça sera sûrement publié sur la média sociale, mais en principal, c'est pour communiquer avec des personnes précises aux États-Unis.
Est-ce qu'il y a des dessins sur la Palestine qui fâchent aussi les Palestiniens ? C'est-à-dire, j'imagine qu'il y a des réalités qui sont contre la politique israélienne vis-à-vis de la Palestine, mais il y a aussi des réalités qui ne valorisent pas soit les politiques, soit même la Palestine en général.
On va prochainement publier des infographies qui parlent des autorités palestiniennes. Et ça sera la première fois. Je ne sais pas comment les Palestiniens vont réagir. On va voir. Mais il y a surtout un endroit où on reçoit quelques critiques. C'est l'utilisation du mot Israël sur les cartes.
C'est-à-dire, dans le monde arabe, on refuse que vous utilisiez le mot Israël. Alors que vous, clairement, sur votre site, vous dites que vous vous intéressez à Israël / Palestine.
Et je peux dire qu'au Liban, c'est interdit d'utiliser le mot Israël sur une carte.
Donc ça pose problème ?
Largement non, mais il y a des individus qui ne voudraient pas que ce soit le cas.
Et qu'est-ce que vous leur répondez alors à ces individus ?
Qu'on doit faire face à la réalité et que le monde appelle Israël, Israël, la Palestine, Israël, la Palestine de 48 au moins. Alors, si on se coupe du langage mondial, il y aura un effet beaucoup plus négatif sur la Palestine que si on l'engage sans l'accepter.
Quel futur pour votre projet ? Comment vous allez évoluer ? Vous voulez faire ça dans d'autres pays ? Développer des visualizing dans d'autres pays ?
Alors, on a déjà commencé à travailler avec Madame Assur,
qui est un site égyptien,
pour créer Visualizing Egypt. On travaille aussi sur des sujets, non pas des géographies. Le sujet sur lequel on va publier une infographie prochainement, c'est le chômage dans le monde arabe. Et aussi, on fait des recherches sur l'isolement et la dépression dans le monde.
Bonjour Yazan Badran.
Bonjour.
Toi, tu représentes ici un site, un projet qui s'appelle en anglais Syria Untold, c'est ça ?
Yes, Syria Untold, it's a project that...
Oui, le projet Syria Untold est un site web qui publie des histoires et des portraits qui se focalisent surtout sur la société civile en tant que mouvement émergent en Syrie. Notre travail consiste à couvrir des histoires sous-médiatisées, à faire entendre les voix d'artistes et de militants syriens d'associations issues de la société civile afin d'ajouter une nuance à la couverture médiatique du conflit syrien.
C'est-à-dire ?
Évidemment, le conflit syrien est parmi les conflits les plus médiatisés de l'histoire. Mais lorsque les médias internationaux traitent ce genre de conflit, ils s'intéressent surtout à la violence, aux structures du pouvoir, aux intrigues politiques. Nous pensons que ça ne représente pas la complexité de la réalité syrienne. En même temps, ça prive les gens de leur pouvoir d'action sur les événements. Dans ces événements, ils jouent le rôle principal. Ils sont eux-mêmes les acteurs principaux. Ça les empêche de s'approprier les événements autour d'eux et de formuler des récits locaux pour ensuite les diffuser dans le monde entier. Nous voulons donc explorer cet espace et représenter ces histoires qui proviennent du terrain. Nous voulons voir ce que produit la société civile syrienne, ce mouvement nouveau qui se développe dans une situation difficile. Et nous voulons le raconter au monde entier. Nos histoires parlent de campagnes de sensibilisation, d'événements culturels qui ont lieu en Syrie, de campagnes d'éducation, de mouvements d'autogouvernance qui existent dans le pays.
Vous vous présentez comme un agrégateur web qui est concentré sur le storytelling, sur les histoires du mouvement civique syrien, c'est ça ?
Plus que des agrégateurs, nous sommes des curateurs, ce qui signifie qu'il y a tout un processus éditorial. Nous collectons les données, nous les analysons et tentons de leur apporter un contexte, puisque c'est justement une des choses qui manque le plus dans la couverture des médias internationaux. C'est le contexte local dont on a le plus besoin. En tant que Syriens, en tant que personnes intéressées par la Syrie, nous ajoutons ce contexte, puis nous essayons de diffuser ces informations à travers nos partenaires et à travers notre site web.
Vous trouvez du contenu local en Syrie alors que c'est tellement difficile d'y aller ou de faire sortir des choses de Syrie?
Notre équipe est composée de personnes issues de trois grands domaines. Il y a des chercheurs, des journalistes et des activistes. Chacun d'entre eux partage son réseau. Nous sommes un réseau et nous disposons d'un autre réseau supplémentaire qui couvre toute la Syrie. Des contacts, des informateurs fiables que je ne nommerai pas journalistes, mais plutôt des réseaux présents sur le terrain. La moitié de notre équipe était basée en Syrie. Ce n'est plus le cas maintenant à cause des conditions de sécurité. Mais il y a encore un réseau sous-jacent à l'intérieur de la Syrie. Parmi eux, des activistes et des professionnels, des médias, et c'est grâce à eux que l'on peut sortir des sujets.
Vous avez publié récemment un article en anglais et en arabe, comme la plupart des articles que vous publiez, qui s'appelle « Solidarité avec Kobané ». C'est inspirante, c'est-à-dire est importante, mais il ne faut pas oublier le reste de la Syrie. Ça, c'est quelque chose qui résume bien vos idées, le but de ce média ?
Yes, absolutely.
Absolument. Kobané est une tragédie qui se déroule sous nos yeux, mais elle fait surtout partie d'une tragédie plus vaste, qui est celle de la Syrie. Alep, une ville qui regorgeait d'histoire, a été complètement détruite. Nous voudrions faire basculer l'attention sur les raisons sous-jacentes de cette tragédie, et non pas sur les symptômes. Nous voudrions humaniser le conflit, sans envisager les Syriens comme de simples chiffres. Mais en même temps, et c'est une composante essentielle de notre mission, nous ne voulons pas faire comme les médias internationaux qui, en humanisant les conflits, les dépolitisent. Nous cherchons justement à accroître la politisation des citoyens. C'est ça qui est crucial pour nous. Nous pensons que la société civile à l'œuvre en Syrie est la clé du futur. Politiser et rendre les choses visibles auprès des audiences internationales sont deux énormes services rendus au futur de la Syrie.
Est-ce que vous avez le sentiment de faire du journalisme en faisant ça, ou au contraire, vous ne souhaitez pas faire de journalisme, vous êtes plus dans une activité militante, engagée ?
Comme je vous ai dit, on se trouve quelque part entre les trois sommets d'un triangle. Ce n'est pas que du journalisme dans la mesure où nous ne publions pas de l'information brute, mais des articles qui expliquent un contexte. Nous faisons également de la recherche et nous travaillons avec des militants. Nous avons un côté engagé aussi, donc le site se place entre ces trois axes.
Un mot peut-être sur votre site, il est présenté comme donc un défilé d'articles, d'histoires, et en dessous il y a une timeline, donc une ligne de temps, une chronologie, c'est ça ?
Oui, parce que nous sommes convaincus que pour comprendre un conflit, il faut une approche historique. Le conflit syrien n'est pas né en 2011, mais longtemps avant. Si l'on se penche sur les événements actuels sans envisager ce qui s'est passé il y a 3 ans, il est très peu probable que l'on puisse comprendre les enjeux profonds. Nous voulons donner au lecteur un petit indicateur visuel de la chronologie d'un conflit en perpétuelle évolution, en perpétuelle mutation.
Comment vous voyez le développement, l'avenir de votre projet? Comment vous voulez le voir évoluer?
Dans le cadre de ce triangle de recherche, militantisme et journalisme, nous développons des partenariats de chaque côté. Nous travaillons sur un partenariat avec Skies pour organiser le débat sur le futur. Nous développons une autre collaboration avec Open Democracy afin d'encourager plus de débats universitaires sur la situation en Syrie, afin de traduire et diffuser des articles de recherche sur la Syrie auprès d'activistes syriens, auprès des gens qui pourraient s'intéresser le plus. Donc, nous cherchons des partenariats, mais nous voulons aussi boucler la boucle en essayant de développer des projets avec des médias syriens émergents, comme des journaux par exemple. Il s'agirait d'analyser les tendances et des thématiques, de traduire des articles pour les transmettre aux audiences occidentales afin qu'il y ait un retour sur ce nouveau système sous forme de soutien. C'est là où nous voulons nous placer. Nous voulons nous placer à cheval entre un média international et un média syrien local et être une plateforme d'échange entre les deux.
Dernière question pour conclure sous une pluie battante à Beyrouth qu'on entend derrière moi. Je remarque que tous vos projets sont une forme de réaction aux médias, aux masses médias ou aux grands médias, soit en opposition, soit en évolution, soit en des projets qui ajoutent quelque chose au travail de ces médias. Est-ce que c'est ça l'innovation média dans le monde arabe et dans cette région plus particulièrement à vos yeux? Et je veux bien donc un mot de conclusion de chacun. Habib Battah, donc pour Beyrouth Report.
Je ne pense pas qu'il faille envisager forcément cela comme de la réaction. Nous produisons beaucoup de contenus nouveaux. Frame produit par exemple des images de la ville qui n'ont probablement jamais été capturées. Visualizing Impact produit des visualisations graphiques incroyables qui racontent des histoires qu'aucun média n'avait racontées. Mashala News produit des histoires. Syrian Told produit des histoires. Les deux publient des sujets qui ne sont pas abordés. On pourrait peut-être penser que tous s'inspirent de l'échec des médias grand public. Mais ce sont aussi des productions nouvelles, comme sur Beyrouth Report, où nous travaillons sur des enquêtes inédites. Tout ceci est du contenu nouveau. Parfois, il y a de la curation, de la sélection, et parfois, il s'agit d'une synthèse de contenus existants. Mais cette synthèse est aussi une forme de contenu nouveau. Ce n'est pas forcément une réaction, mais plutôt une réponse à un véritable besoin de storytelling qui puisse avoir un impact. L'enjeu n'est pas simplement de faire notre travail de journaliste, nous cherchons à dialoguer avec nos audiences. Donc oui, c'est une réaction face à l'échec des médias traditionnels, mais aussi une production foisonnante de contenus nouveaux.
Shouman Al-Jabri pour Visualizing.
Alors, je trouve que notre travail est complémentaire. Il y a un réseau médiatique qui toujours ne donnera pas assez à ce monde de 7 billions de personnes. Il y aura toujours des vides et nous, on contribue avec des visuels qui ajoutent à ce que la média fait déjà ou ne fait pas, mais ce n'est pas en réaction, c'est plus en contribution.
Yazan, pour Syria Untold.
On peut dire que les échecs et les défaillances des médias internationaux forment un catalyseur, mais nous faisons aussi partie d'un mouvement politique et social local. Nous ne voulons pas uniquement répondre aux médias internationaux, nous voulons privilégier nos propres styles narratifs locaux dans un cadre plus large. Nous voulons contrer les flux à sens unique dans lesquels nous sommes bloqués depuis des décennies.
Ali Sayed Ali, donc pour Frame et le Beyrouth Photomarathon.
Il
y a un certain degré d'ironie dans ce que nous faisons. Je dirais qu'il s'agit effectivement d'une réaction à la manière dont notre ville et notre pays sont représentés dans les grands médias. L'ironie est que nous offrons une image alternative de Beyrouth. Et cette image alternative est en réalité le vrai Beyrouth, celui que nous ne voyons pas dans les médias internationaux. On connaît tous l'expression en anglais, si le sang coule, le sujet se vend. temps. J'ai envie de répondre, nous ne saignons pas tout le temps. Le plus souvent dans cette ville, nous vivons. Il y a beaucoup de choses à voir et à documenter. C'est une vision de Beyrouth que nous essayons d'offrir au public dans le monde.
Micheline Tobia pour Mashallah News.
Je voulais dire que heureusement qu'on est différents, qu'il y a eu cette frustration de la mainstream media. C'est ce qui nous a encouragés à commencer notre propre projet. Mais que je trouve aussi qu'on est complémentaires parce que nous, dans Mashallah News, on ne couvre pas les news qui arrivent au moment même. Et donc c'est une bonne chose, on se complète et nous avons chacun notre focus particulier. Et c'est pas si mal que ça.
Merci à tous. On trouvera sur le site de l'Atelier des médias des informations complémentaires, des liens vers vos différents projets. À bientôt.
Rejoignez la communauté de l'Atelier des médias sur Internet.
http://atelier.rfi.fr.
C'était l'émission numéro 369 de l'Atelier des médias proposée par Marie-Catherine Beuth, Francis Pisani, Manon Mella, Mélissa Barra, Dilette Sadawi, Jules Nardouek, Raja Yahyaoui, Simon De Creuse et Ziad Malouf. N'hésitez pas à nous suivre, nous lire, nous contacter sur Twitter, Facebook, atelier.rfi.fr, mondoblog.org, libiablog.org et arablog.org. Merci pour votre écoute, vos réactions, vos encouragements. Salut à toutes et à tous.
C'est fini ou c'est pas fini?
Ah ouais, des bonus.
Des bonus.
Ben, ça continue sur Internet.